juste après le journal. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour à toutes et à tous. À demain, Juan Gomez. Coup de massue dans les pays visés par les nouveaux droits de douane américains. Plus 20, plus 26, plus 34% de surtaxes, réaction en chaîne après les annonces du président Trump. Catastrophe pour le monde de l'économie, dit le Premier ministre français François Bayrou. La Chine dénonce le protectionnisme et l'intimidation des États-Unis. Taïwan regrette des mesures totalement déraisonnables. La Hongrie se retire de la CPI, la Cour pénale internationale annonce de Budapest, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de la Cour, est en visite sur place. À suivre aussi la guerre sans fin à Gaza, l'armée israélienne augmente la pression sur le territoire, mais certains réservistes sont à bout, vous l'entendrez. Et puis les suites de la condamnation de Marine Le Pen en France. À gauche, la France insoumise a émis des réserves sur cette décision de justice, sachant que son chef de file, Jean-Luc Mélenchon, est lui-même visé par une information judiciaire sur l'utilisation de certains de ses assistants parlementaires. Oui, branle-bas de combat après les droits de douane annoncés par Donald Trump. Plus 10% minimum pour tout le monde, dès samedi, pour tous les produits importés aux États-Unis. Et puis, dès la semaine prochaine, il y aura encore des surtaxes pour des dizaines de pays. Plus 34% pour la Chine, plus 20% pour l'Union européenne, plus 46% pour le Vietnam. Une montagne de taxes donc pour les pays jugés hostiles en matière commerciale par Washington. Et les réactions se suivent et se ressemblent ces dernières heures pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est un coup dur pour l'économie mondiale, mais il n'est pas trop tard pour négocier. En France, le président Macron réunit là aujourd'hui les représentants des filières impactées, donc aéronautique, industrie ou encore viticulture. La Chine appelle Washington à annuler immédiatement ces mesures. Taïwan n'y échappe pas. L'île va subir plus 32% de tarifs douaniers. Les autorités de Taipei avaient pourtant tendu la main pour tenter d'y échapper ces dernières semaines. Malgré ses efforts, c'est raté, Jules Bois.
Ce jeudi matin, le réveil est difficile à Taïwan. Les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis sont un coup dur pour l'économie taïwanaise, dont les États-Unis représentent 20% de ses exportations. Ces derniers mois, Taïwan avait pourtant multiplié les promesses d'investissement sur le sol américain, avec notamment l'annonce d'un investissement majeur de 100 milliards de dollars de la part du géant des semi-conducteurs taïwanais TSMC. Des annonces dont Donald Trump s'est félicité hier encore, considérant ces investissements comme une victoire de sa nouvelle politique tarifaire. Mais pas suffisant pour que le président américain en oublie la concurrence taïwanaise qu'il n'a pas manqué de rappeler lors de ses annonces à Washington.
Taïwan, ils ont pris toutes nos puces informatiques et nos semi-conducteurs. Nous étions les rois, pas vrai? Nous avions tout et il ne nous reste presque plus rien.
Seul signal positif pour Taïwan, les tarifs ne s'appliqueront pour le moment pas aux semi-conducteurs, un moment de répit pour l'économie taïwanaise qui subira les taxes américaines à partir du 9 avril. Jules Bois, Taipei. RFI.
Alors côté américain, Donald Trump assure que ces nouvelles taxes vont rapporter plusieurs centaines de milliards de dollars par an à l'État, que cela va permettre de réindustrialiser le pays. Cette offensive, elle était attendue. Le président Trump avait promis pendant sa campagne de rendre sa grandeur à l'Amérique. Mais ces mesures risquent aussi d'augmenter le coût de la vie pour les Américains, pour les consommateurs. Un mal pour un bien, selon les soutiens de Donald Trump, comme David Fisher. Il a 63 ans, il habite Jackson, dans l'est du Kentucky.
Même si les choses deviennent plus chères, je pense que sur le long terme, ça vaut le coup. Si on arrive à ramener des usines aux États-Unis et ainsi créer de l'emploi, je pense que l'idée de Donald Trump est une bonne idée. Essayer que tout le monde renégocie les règles. Les accords de libre-échange nord-américains semblent toujours avantager les autres pays qui nous inondent avec des produits moins chers. Mais ce sont eux qui ont les emplois dans les usines, chez eux. Les autres pays fabriquent des biens moins chers et les envoient ici, sans frais. Mais nous, quand on fabrique des biens et qu'on les exporte, on a des droits de douane. Les droits de douane de Donald Trump vont obliger ces pays à déplacer leurs usines aux États-Unis s'ils veulent vendre leurs produits ici. C'est l'objectif final, je pense.
Voilà, témoignage de David Fisher, propos recueillis par notre correspondant Edouard Maille. La Hongrie annonce son son retrait de la Cour pénale internationale. Et cela en pleine visite de Benjamin Netanyahou à Budapest, accueilli avec les honneurs invités par le Premier ministre Viktor Orban, malgré le mandat d'arrêt émis par la CPI contre le chef du gouvernement israélien pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Le territoire palestinien frappé par de nouvelles frappes israéliennes. Ce matin, dans le nord, la défense civile du territoire fait état d'au moins 15 morts. L'État hébreu affirme vouloir s'emparer de larges zones de la bande de Gaza et étend donc ses opérations militaires. Mais l'armée israélienne, qui repose en grande partie sur les réservistes, est-elle capable d'assurer une telle mission? Selon le journal israélien Haaretz, certaines unités de l'armée comptent aujourd'hui jusqu'à 50% d'effectifs en moins. Les soldats refusent de se présenter au service. Certains invoquent des questions d'ordre moral et d'autres se disent simplement épuisé. À Jérusalem, Sami Bonlifa.
Chaim Harzahav fait partie des près de 360 000 réservistes israéliens mobilisés après le 7 octobre.
Israël a été attaqué. J'étais convaincu qu'il fallait se battre.
À deux reprises, il est déployé dans l'enclave palestinienne.
En tout, j'ai passé 254 jours à Gaza, en l'espace d'une année et deux mois.
Sa mission, évacuer les soldats blessés.
Après mon deuxième séjour à Gaza, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas vraiment d'objectif, que les otages ne seraient pas libéré parce que le gouvernement israélien ne faisait rien pour ça. Alors que moi, je m'étais engagé dans ce but, pour libérer les otages.
Chaim Harzahav ne reste pas non plus insensible au sort des Palestiniens.
À l'armée, l'état d'esprit général est que les Palestiniens de Gaza sont des simples dommages collatéraux. Mais pour moi, les civils, même s'ils sont dans le camp ennemi, restent des civils.
Plus de 50 000 Gazaouis ont été tués par Israël depuis le début de la guerre, mais ce n'est pas pour cette raison que cet autre réserviste israélien, Raz, a décidé de ne plus retourner à l'armée.
Quand tu vas à la guerre, t'as peur de pas revenir. J'étais à Gaza plus de 100 jours, physiquement et mentalement c'est très très dur. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, il y a beaucoup de maladies. À chaque fois que j'étais là-bas, mes parents et toute ma famille étaient très anxieux. Aller se battre, c'est trop pour moi en ce moment.
À Gaza, Israël est engagé dans la plus longue guerre de son histoire, une guerre dont 70% des victimes sont des femmes et des enfants, selon l'ONU. Sami Bourfif à Jérusalem, RFI.
Israël, cet avertissement à la Syrie. L'État hébreu prévient que Damas devra payer un lourd tribut si ses intérêts sécuritaires sont menacés, alors que l'armée israélienne a mené une opération ce jeudi dans le sud de la Syrie en réponse, selon elle, à des tirs d'hommes armés. La Syrie, de son côté, accuse Israël de vouloir la déstabiliser. Un bilan de plus en plus lourd. En Birmanie, plus de 3000 morts désormais recensés après le séisme qui a dévasté le centre du pays vendredi dernier. Quelle réponse au tremblement de terre? C'est au programme d'un sommet régional organisé en Thaïlande voisine. En France, le Rassemblement national prépare sa contre-attaque. Une manifestation de soutien à Marine Le Pen, ce sera dimanche après sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité. Dans le concert des réactions politiques, à gauche, ils font office d'exception. Les insoumis ont fait part de leurs réserves sur cette décision de justice. Pour eux, cela doit passer par les urnes, mais c'est aussi, Aurélien de Vernois, le signe d'une inquiétude quant à l'avenir judiciaire de Jean-Luc Mélenchon.
La destitution d'un élu devrait revenir au peuple, regrette Jean-Luc Mélenchon dans un message sur les réseaux sociaux après l'annonce de la condamnation de Marine Le Pen. Une référence à une proposition portée par les insoumis, celle d'un référendum révocatoire qui permettrait de destituer un élu en cours de mandat par consultation des électeurs. Mais cela fait surtout longtemps que le leader insoumis s'insurge contre ce qu'il appelle le lawfare, la disqualification politique par la condamnation judiciaire, s'appuyant notamment sur les déboires connus par les présidents brésiliens Lula et Dilma Rousseff. Il y a aussi une explication moins théorique. Jean-Luc Mélenchon est lui-même visé depuis 2018 par une information judiciaire concernant l'utilisation de certains de ses assistants parlementaires quand il était député européen entre 2019 et 2017. La perspective pour l'instant hypothétique d'un procès inquiète dans les rangs insoumis. Si Marine Le Pen écope de 5 ans d'inéligibilité, Jean-Luc risque également gros, confie un cadre du mouvement qui poursuit. On ne veut pas être paranoïaque, mais si la procédure judiciaire redémarre rapidement, rang, ça pourrait l'empêcher d'être candidat à la présidentielle.
Et la chef des écologistes Marine Tondelier assure ce matin que la gauche prépare aussi une mobilisation pour contrer la manifestation attendue du Rassemblement national. C'est à vous tout de suite, Caroline Paré, pour Priorité Santé.
Merci Charlotte Hydrac.